Comment pousser les bords du monde?
I'm just average common too, just like him, same as you.
Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon.
Shadowboxing early in the day, I figured I was ready for Cassius Clay.
For the times, they are a changing.
12. La fée électricité, Nashville, et l'homme hué. Le paradoxe de 1966, c'est que nous savons aujourd'hui y être comme un point incandescent de Dylan chanteur, Dylan musicien. Le paradoxe de 1966, c'est qu'on lui a refusé toute écoute, toute confiance, et que c'est l'année de la cassure. Dylan au plus haut, la réception de Dylan au plus bas, et au bout un homme brisé qui s'enferme. Parce que Dylan est en avance. Ce qu'il a fait comme cadeau aux Beatles, à John Lennon et George Harrison, qui sont pour lui maintenant deux proches, dans la rare galaxie d'amis qu'on peut garder sous la pression d'une telle célébrité, une célébrité si excessive, disproportionnée, la narration des chansons par images discontinues, s'autorisant de leur seule poétique. Il est encore le seul à en disposer. L'année précédente, Dylan a proposé deux disques qui sont comme des explosions en marche. Le semi-acoustique, semi-électrique Bringing It All Back Home, puis le disque enregistré à New York avec l'électricité de Mike Bloomfield et Al Cooper, Highway 61 Revisited. Si l'argent et les ventes massives, c'est plutôt les chanteurs qui reprennent ou créent ces chansons, les disques de Dylan maintenant figurent eux aussi plusieurs semaines dans les meilleures ventes. Mais pas la première place. Trop compliqué. Trop novateur.
Should I put them by your gate?
Ce début 1966, on joue des concerts en grand, mais à l'échelle de l'époque. Des salles de 3000 ou 4000 places, rien à voir avec les concerts de Dylan ou des Rolling Stones aujourd'hui. Des salles dépourvues d'acoustique, en tout cas hostiles aux amplificateurs et aux micros. Les concerts sont réglés. 45 minutes de Dylan seul avec sa guitare acoustique, ses harmonicas, puis le groupe arrive sur scène pour 45 minutes électriques, Dylan avec sa Fender Stratocaster. C'est un déchaînement qu'on dirait prévu d'avance. Les huées. Lui, il assume. Il dit à ses musiciens, on fait la musique qu'on a à faire. Il dira plus tard, je n'ai jamais été un artiste qui se comporte en fonction de l'attente de son public. Lui et ses musiciens, le guitariste Robbie Robertson en particulier, disent qu'après les concerts, ensemble, ils réécoutent les bandes, cherchent à comprendre pourquoi ces cris, ces sifflets. Ils n'ont rien à changer, pensent-ils, à leur façon de jouer, ni à la musique qu'ils délivrent. D'ailleurs, quand il joue Like a Rolling Stone, la chanson qui a brutalement fait monter d'un cran le statut et la célébrité de Dylan, les huées s'arrêtent. Les gamins chantent avec eux. En fait, pour eux, huées et Dylan, traître au folk, traître à la chanson de contestation, protest song, c'est comme si c'était déjà inclus dans le billet. Un comportement décidé d'avance, puisque d'autres l'ont fait avant eux. Ils ne trouvent pas le groupe à la hauteur. Mais c'est le concept décidé par Dylan que la voix dans ses lancers, la voix psalmodiante et le texte en avant, puis dessous, derrière, cette masse monobloc, métallique et compacte, avec les trilles de la guitare pour faire le lien. Mais qu'on réécoute aujourd'hui Dylan and the Hawks et qu'on prétende qu'il n'est pas fidèle à lui-même. Il dit en réponse, « Toutes mes chansons sont des chants de contestation. All of them are protest songs. » Il ne chante plus Masters of War, ni Blowing in the Wind, mais est-ce qu'il y a un fond dans Ballad of a Thin Man qui laisse place au confort d'exister ? Même la partie acoustique, ce n'est pas le Dylan de 1965. Un orchestre à lui seul, une rage, et lui, tout seul avec une guitare, et faire la même chose tous les soirs dans toutes les villes, c'est ça qu'il voulait ? Moi, je ne pouvais pas. D'autres pourtant s'en seraient accommodés.
The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you.
Dylan offre toute sa confiance à son groupe. La preuve, en décembre, c'est avec eux qu'il va en studio pour enregistrer. Mais ça ne colle pas. Il manque quoi à la première version de Visions of Joanna ? Un balancement ? Une distance ? Bob Johnston, le producteur, lui propose de l'accompagner à Nashville. On ira 4 jours. Même coincé dans la tournée. On a prévu le début de la séance à 14h. Comme d'habitude, l'idée de Dylan, c'est de trouver la force du direct, jouer tous ensemble, ne rien corriger ni rajouter. Bob Johnston a fait enlever les pendules, mais aussi démonter les boxes du studio. Dylan n'a pas sa machine à écrire, juste le papier à lettres de l'hôtel et un crayon. Un jeune type, pas encore 25 ans, qui s'affuble de lunettes noires comme un acteur de cinéma, à croire qu'il les garde même pour dormir. Ses amis le disent, jamais il n'a été aussi maigre, aussi blême. C'est ce que prennent de vous les pilules, la méthamphétamine pour les sensations et l'excitation, et les dérivés de Valium qu'on prend au bout de 3 ou 4 jours pour dormir quand même. Schéma qui vous met le monde à distance. Vous êtes dans une bulle. Dylan a les cheveux bien plus longs qu'avant, ébouriffés tout droit. Un oiseau y aurait fait son nid, rigolent les musiciens. Ils disent aussi qu'il ne sent pas bon, ne change pas de vêtements. Ça fait partie de l'armure. Quand il entre dans le studio, Dylan demande qu'on le laisse 3/4 d'heure seul avec son piano et son papier, qu'il doit terminer les paroles. C'est une chanson sur Sarah, Sad Eyed Lady of the Lowlands. Les musiciens vont attendre dans la salle d'à côté. Ils jouent aux cartes, boivent du café, fument dans l'escalier. De toute façon, ils sont payés. Dylan est toujours dans la salle, enfermé. Ils disent que c'est seulement à 1h du matin qu'il est sorti et qu'il commençait quand même, sinon à s'endormir, à en avoir furieusement marre. Dylan leur explique les accords, il y en a 3, mais ne leur donne pas le texte. Pour eux, une chanson, c'est 2 minutes 30. Celle-ci en fera plus de 11. On finit à 4h du matin. Et ça, on le recommencera 4 jours d'affilée. On n'enregistrera que 4 chansons, mais toutes au-delà des 5 minutes. Pour la dernière, Dylan leur demande « What do you do there ? Vous faites quoi dans ce patelin ?» Ce que les musiciens trouvent un peu bizarre. Ils finissent par comprendre. On va faire une chanson qui s'appelle « Everybody must get stoned ». Alors, faudrait quand même prendre un petit quelque chose avant. La question donc c'est « Qu'est-ce qu'on prend dans ce patelin ?» Pour s'allumer un peu.
Stone you when you're trying to be so good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned.
On envoie chercher des cocktails au bar d'à côté. Ça s'est jamais vu à Nashville. On enregistre plusieurs prises et on reprend chaque fois un cocktail. Mais Dylan, ça ne lui convient toujours pas. Alors, il demande que tout le monde change d'instrument. Al Kooper à la basse, Charlie McCoy à la trompette, le batteur au tambourin et les tambours aux mains de qui veut. On doit tous être défoncés, dit le refrain. Et voilà, cette pagaille, ce sera la chanson phare, la chanson d'ouverture du disque. Un slogan provocation à échelle mondiale pour la génération qui monte. Un an plus tard, quand la police fouillera la maison de Keith Richards à la recherche de drogue, c'est celle-là qu'il mettra sur l'électrophone, plein volume, par provocation. On reprend l'avion le lendemain pour la tournée. Dylan dit à Johnston que les quatre chansons, c'est déjà plus long qu'un disque. Alors on fera un double album ? Ça s'est pas encore vu ? Eh bien comme ça, ce sera vu. On est de retour à Nashville un mois plus tard. À nouveau pour 4 jours et pas plus. Pour Nashville, c'est une réhabilitation. C'est grâce à Blonde on Blonde que l'image de Nashville bascule, que plein d'autres musiciens viendront y enregistrer. Dylan, en studio, n'adressera pas la parole aux musiciens. Il ne mange pas avec eux, n'entre dans aucune relation d'amitié. Leurs noms figureront pourtant sur l'album, une marque de respect à laquelle ils ne sont pas habitués. Mais on ne se préoccupera pas de leur envoyer ne serait-ce qu'un disque gratuit en remerciement.
Said don't get cute. So I forced my hands in my pockets and filled with my thumbs. And gallantly I handed her my very last piece of gum. She. Suite de la tournée. De plus en plus inséparable ou indissociable de Dylan, le guitariste, Robbie Robertson, Robert, fils de Robert, qui n'a vraiment rien à voir physiquement avec Robert Zimmerman, dit Bob Dylan. Il est bien plus grand que lui, rien enveloppé, avec ce visage poupin que les étudiants américains gardent jusqu'à l'âge de Bill Gates. C'est lui le guitariste inconnu de The Hawks, qui prend la place dont Bruce Langhorn et Mike Bloomfield n'ont pas voulu. Robertson est né de père juif et de mère indienne, une Mohawk. Ça a compté pour leur amitié ? On est ensemble à l'hôtel, ensemble dans les loges, ensemble dans l'avion. Et les types de Toronto, plus Mickey Jones, le batteur qui remplace Levon Helm, Rick Danko, basse et violon, Richard Manuel, piano, batterie, mais aussi alcoolique sérieux, et Garth Hudson, qui joue de l'orgue avec formation classique, sont passés brutalement d'un public de 50 personnes à plusieurs milliers. On apprend incidemment que le vieux Lockheed, utilisé par Albert Grossman, n'a pas le chauffage et qu'il fait moins 20 à cette hauteur où on vole. Et c'est hué en paquet dans chaque ville, quand bien même Blonde on Blonde est sur toutes les radios, qu'ils s'en vendent des millions. Sans doute qu'ils attendaient de leur départ d'Amérique un soulagement, sinon une reconnaissance. Mais c'est pareil en Angleterre. Ainsi Liverpool, la ville des Beatles, pour calmer les sifflets, obligé de dire, lui, Dylan, ce n'est pas de la musique anglaise, c'est de la musique américaine, d'accord ? Et les rituels toujours vides de ses conférences de presse avec les questions qu'il désamorce une par une. Est-ce que vous avez une raison pour expliquer l'enthousiasme que les gens ont pour ce que vous faites ? Vous répondriez quoi, vous ? ou bien
How many people who labor in the same musical vineyard in which you toil, how many are protest singers? That is, people who use their music and use the songs to
Vous êtes combien aujourd'hui de chanteurs protestataires? La réponse, imparable.
How many?
Yes. Are there many who
do? Yeah, well, I think there's about 136.
You say about 136? Mm. Or do you mean exactly 136?
136 environ. 136, vous êtes sûr? 136 ou 142? Dylan a de nouveau demandé à David Pennebaker de filmer la tournée. L'idée ? Non pas les concerts, ni recommencer ses vies de loge et coulisses ou hôtels de Don't Look Back l'an dernier, mais d'improviser, de jouer des personnages. On sera en banlieue, on montera sur le toit d'une maison, devant les ouvriers du carrefour interloqué. On achètera un bouquet de fleurs et on l'offrira à la première fille qu'on aperçoit embrasser son amoureux. Mais quoi faire des huées ? Quoi faire ? Lorsqu'à Birmingham, il y a ce type qui crie du fond de la salle. Judas. Et que Dylan lui répond avec plus de fatigue que de colère. Je te crois pas, tu mens.
I don't believe you.
Avant de se retourner vers le groupe. Jouez putain fort, les gars. Play it fucking loud.
You're a liar.
Pennebaker fera un premier montage du film, Hits Document. Mais Dylan trouve que les concerts ont trop repris la première place, quand lui voudrait une sorte de montage mosaïque qui serait dans cette même distance au réel que ses chansons. Par exemple, cette scène dans la limousine louée pour le séjour à Londres, où il est à l'arrière avec John Lennon. C'est censé être le morceau de résistance, des vannes qu'on se lancerait l'un à l'autre, un hommage dadaïste à l'absurde. Mais Lennon ne fait pas comme cela des vannes sur commande, enfermé avec caméra sous le nez. Et Dylan, à bout de fatigue, demandera au chauffeur Tom Keelock, qu'on a emprunté aux Rolling Stones, de le ramener à l'hôtel, tellement il n'en peut plus de son envie de vomir. Pennebaker filme aussi l'arrivée de Dylan à Stockholm. Ils viennent directement d'Afrique du Sud, 27 heures d'avion. Et on s'étonne qu'ils paraissent flottants.
Not your personal comment.
Yeah. What do you think?
I have no opinion about that.
Well, why?
Because I haven't heard you sing, actually.
You've never heard me sing. And here you are, sitting here and asking me all these questions.
Well, you know?
On termine par Paris. La RTF, aujourd'hui Radio France, doit enregistrer le concert de l'Olympia, ce 24 mai 1966, le jour même de ses 25 ans, à Bob Dylan. Et tellement de huées, tellement de sifflets, même s'ils tiennent contre la marée, qu'il demandera que le concert ne soit pas diffusé. Jusqu'ici, à la fin de ses tournées, Dylan s'octroyait quelques jours de soleil, au Portugal, en Grèce. Là non, il revient à Woodstock et s'enferme. Les Dylan ont leur premier enfant, ils en attendent un deuxième. On se réhabitue au silence, au calme. Ils sont voisins des Grossman et Sarah, toujours liée à Sally, l'épouse du producteur. Ils ont passé la soirée avec elle. Dylan a repéré dans le garage de Grossman une vieille moto qu'il veut retaper. Dylan part avec la moto. Sarah le suit en voiture. On n'en saura jamais plus sur l'accident de moto de Bob Dylan.
Jean-François Néolier, Julien Douminc, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre. Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté par François Bon. Demain, 13e épisode. La moto, la rupture, and Big Pink.